Bienvenue dans ce tout premier podcast du blog Gliss Alpine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un point technique pour ceux qui souhaitent investir relativement tôt dans leur propre matériel, qui est ce que je conseille dans mon tout premier billet que j'avais publié sur le blog et qui s'intitulait « Vaut-il mieux louer ou acheter son matériel de ski et de snowboard ?» Alors cet article, enfin ce podcast, il est destiné avant tout aux riders débutants et intermédiaires, mais je vais aborder pas mal de concepts techniques, je vais essayer de les expliquer au maximum. Après, s'il reste des points à éclaircir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions sur le blog dans les commentaires. Alors, le titre de ce podcast, c'est « Choisir sa planche de snowboard pour débuter et progresser, 7 points à ne pas rater ». Donc ces 7 points, je vais détailler par la suite, mais je peux déjà vous les énoncer. C'est d'une part le programme, ensuite le flex de la board, son profil qu'on appelle aussi cambre, son shape et le setback, sa longueur et sa largeur. Alors les deux derniers points, eux serviront à adapter en fait la planche à votre morphologie en choisissant la bonne taille. Donc le premier point auquel on va s'intéresser, c'est le programme qui correspond à ce que vous faites en fait pendant vos sessions sur les pistes ou hors des pistes. C'est la première question à vous poser, c'est quelle va être ma pratique dominante. Si vous êtes plutôt intéressé par le freestyle, vous allez choisir une planche différente de si vous êtes plutôt porté sur le freeride. Alors heureusement, comme on va le voir, pour une première planche, pour débuter, les choses ne sont pas aussi tranchées et les planches pour rider débutant sont en général des planches polyvalentes qui vous permettent de faire un petit peu de tout et ensuite de vous orienter selon vos préférences vers l'une ou l'autre des disciplines. Donc une planche pour débuter le snowboard, c'est surtout premièrement une planche facile qui rentre facilement au virage, qui est manœuvrable, qui vous permet de faire vos premières prises de quart de manière aisée et aussi qui est tolérante, qui va vous permettre de faire des erreurs sans trop de conséquences jusqu'à ce que votre niveau progresse et ensuite vous pourrez éventuellement partir sur une planche qui sera moins tolérante mais qui vous permettra d'avoir plus de contrôle. C'est donc pour ça qu'on a des planches qui sont polyvalentes et qui ont tendance à tirer vers le freestyle. Parce qu'une planche de freestyle, c'est une planche qui est plutôt courte, qui est facile à manœuvrer, qui est assez souple. Et donc, c'est des qualités en fait qui se retrouvent dans une planche qui va servir à débuter. Alors on peut classer les planches dans plusieurs types de catégories ou de programmes. Ici j'ai décidé d'en détailler 3, mais après on peut les subdiviser et on pourrait en faire 6, voire plus. Donc on a d'un côté la partie freestyle, freestyle pur, freestyle park, qui est vraiment tout ce qui est saut, module, halfpipe, etc., où on a donc des planches très manœuvrables qui permettent de faire des figures et qui, comme je vous le disais, sont plutôt des bons choix pour débuter. En fait, vous pouvez très bien débuter avec une planche de freestyle entre guillemets haut de gamme, performante, alors que débuter avec une très bonne planche de freeride, c'est beaucoup plus compliqué parce que de ce côté du spectre, on a des planches qui sont beaucoup moins maniables, qui pardonnent moins les erreurs. Donc c'est pour ça que, comme je vous le disais, pour débuter, on est plutôt côté polyvalent et freestyle. Ensuite, on a une catégorie All Mountain, donc avec d'un côté le All Mountain plutôt freestyle et de l'autre côté le All Mountain plutôt freeride, qui sont donc des planches elles aussi polyvalentes, qui vous permettent de faire, comme leur nom l'indique, un peu ce que vous voulez sur la montagne, et qui sont donc soit très centrées, soit un peu plus typées freestyle ou freeride. Et ensuite, on a une dernière catégorie qu'on pourrait nommer freeride pur, avec également dedans des planches de poudreuse. Donc là, c'est pareil, on pourrait aussi subdiviser. Il y a chaque constructeur, chaque fabricant introduit des différences qui font que leur planche sera plus ou moins performante, soit sur piste, soit sur la poudreuse, etc. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, c'était un peu pour vous faire une idée des différents programmes qui existent. Enfin, il reste une dernière catégorie que nous n'aborderons pas, même si elle correspond plutôt bien au nom de ce blog, c'est le snowboard alpin. Alors ici, on est vraiment dans la partie freeride pure et piste, avec des planches très très longues et très rigides, qui permettent de vraiment carver à l'extrême. Ce sont des boards qui s'utilisent avec des fixations et des chaussures spécifiques qui sont assez semblables à celles utilisées pour le ski. Donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est le flex. Alors le flex, qu'est-ce que c'est ? Le flex, ça représente en fait la souplesse de la board. Donc grossièrement, c'est la force appliquée pour qu'elle plie. C'est quelque chose que vous pouvez tester facilement si vous avez une planche à portée de main. Vous la tenez debout, vous appuyez une spatule au sol, et si vous poussez à peu près au centre de la board avec votre main ou votre pied, la planche va plier. Et selon donc son flex, elle pliera plus ou moins, elle se déformera plus ou moins. Donc les fabricants, ils imaginent bien que si vous allez acheter une board, vous n'allez pas passer votre après-midi dans le magasin à sortir toutes les boards et à les tripoter dans tous les sens pour voir si elles sont plus ou moins souples. Donc ils fournissent un indice de flex qui est une valeur comprise entre 1 et 10 et qui permet de se faire une idée de la souplesse de leur planche. Alors une valeur faible, ça indique une planche très souple, et une valeur importante, c'est une planche très rigide. Par exemple, une planche qui a un flex de 2, ce sera typiquement une planche de freestyle qui est très souple, alors qu'une planche qui a un indice de 8, ce sera une planche typée freeride qui est très rigide. Donc c'est un indice qui peut varier entre les fabricants légèrement. Hein, vous pouvez avoir un indice de flex de 7 chez un fabricant qui correspond à 8 chez un autre. Voilà, il peut y avoir des petites différences. Donc une planche très rigide, c'est une planche qui permet de mieux tenir la carre et avaler un terrain irrégulier, mais qui est plus difficile à manœuvrer. Donc typiquement, si votre but c'est de dévaler la montagne le plus vite possible, vous allez vous diriger vers une planche rigide avec donc un indice de flex élevé. Pour débuter, c'est pas ce qu'on cherche. Au contraire, comme je le disais précédemment, on cherche une planche plutôt souple. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on est pour des planches débutants vers des planches polyvalentes et plus tournées freestyle. Ensuite, on va voir le type de profil qu'on appelle aussi cambre. Alors la plupart des planches, elles sont pas plates entre les spatules, mais elles possèdent une arche qui peut être concave ou convexe, voire d'autres formes qui combinent justement des arches concaves ou convexes. Donc on peut retrouver des planches selon leur programme qui ont une espèce de forme de vaguelette. Donc on va voir ça dans les différents types de profils. Il faut savoir que le profil d'une board est vraiment déterminant à son caractère. Ça va jouer énormément sur le comportement de la planche, et c'est sans doute ce qui joue le plus. Après, c'est sans doute le flex, mais le type de profil est vraiment très très important. Alors j'ai commencé à travailler sur un autre article et je ferai certainement un autre podcast sur tous les types de profils existants en détaillant vraiment toutes leurs caractéristiques. Ici, je vais essayer de rester assez concis tout en faisant passer les grandes familles donc et les utilisations qui en sont faites. Donc on retrouve tout d'abord le camber ou le cambre classique, qui est vraiment le profil historique, qui est utilisé depuis le tout début. Donc c'est un profil où la board elle repose sur deux points de contact à la naissance des spatules, c'est-à-dire que si vous la posez sur le sol par exemple, vous allez voir que le seul endroit où la planche est en contact avec le support, c'est à la naissance des spatules, et elle forme une arche en fait sur le reste de son corps, qui est surélevé du coup par rapport au support. Donc c'est un profil qui est tout indiqué pour un programme freeride, parce qu'il permet de maintenir une excellente stabilité à haute vitesse et une accroche maximale au carving. Il est de moins en moins utilisé en freestyle, mais l'avantage qu'il a au niveau freestyle, c'est qu'en fait il bénéficie d'un pop important. Alors le pop, rapidement, c'est quoi ? C'est quand vous êtes, c'est l'impulsion que vous allez donner quand vous êtes sur une rampe, qui va permettre en fait d'avoir un effet ressort sur la planche et qui va permettre de vous propulser. Donc comme je vous le disais, ce profil au niveau freestyle, on le voit plus vraiment, et il est remplacé par d'autres profils certains hybrides qu'on va voir qui ont d'autres propriétés plus intéressantes au niveau freestyle. Ensuite, on a donc le rocker ou camber inversé. Alors, comme son nom l'indique, c'est l'exact opposé du camber. La board, elle repose plus sur ses deux points d'appui au niveau des spatules, mais au contraire sur un seul en son centre et les spatules en gros, reposent en l'air. Donc typiquement, si vous posez la planche par terre, vous pouvez la faire pivoter très facilement. En fait, elle est dans un espèce d'équilibre instable avec donc le centre de la board qui touche le sol et tout le reste qui est dans les airs en fait. Alors l'avantage du rocker, c'est que ça se met en virage très facilement, c'est très manœuvrable, ça pivote du coup très facilement puisqu'on n'a plus ces deux points d'appui au niveau des spatules. Et donc c'est un excellent choix pour une board de débutant, parce que voilà, c'est tolérant, on fait moins de fautes de quart, c'est clairement un bon profil et c'est un profil qui est aussi très orienté freestyle. Alors les désavantages par contre par rapport à un camber classique, c'est que bah, du coup c'est beaucoup moins stable à haute vitesse et ça tient beaucoup moins bien la car justement dans ce type de situation. Ensuite on a le rocker ou camber plat. Donc là c'est plutôt simple en fait, c'est que entre les spatules, la planche est plate. Donc si vous la posez au sol, toute la semelle de la planche est en contact avec le sol et on a juste les spatules qui sont surélevées, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est un profil qu'on retrouve pas mal dans les planches de niveau débutant intermédiaire parce que c'est un profil qui est plus facile qu'un camber classique et qui est un peu finalement un milieu entre le rocker et le camber. Enfin, on a tout ce qui est profil hybride. Donc camber et rocker hybride. Alors là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de profils. Les marques ont inventé un bon nombre de profils. Donc je ne vais pas tous les détailler. Mais typiquement, donc, on a des hybrides avec du camber, du rocker entre les pieds et du camber. En fait, du camber à chaque extrémité. On a l'inverse avec du rocker à chaque extrémité et du camber entre les pieds. Et on a un profil qu'on retrouve pas mal dans les planches de freeride qui est le camber freeride ou powder camber qui a l'avantage en fait de permettre de bien faire déjauger le nez dans la poudreuse tout en gardant pas mal d'accroches au carving. Donc ce profil là, on a un rocker à l'avant et un camber à l'arrière. Ensuite, on va s'intéresser au shape de la planche et à son setback. Alors, le shape, qu'est-ce que c'est ? Le shape, il peut être directionnel ou symétrique. En gros, ça va définir, c'est dépendant de, donc encore une fois, l'usage qu'on va faire de la planche. Un shape directionnel est fait pour des planches qui vont être ridées dans un seul sens, enfin, 90-95% dans un seul sens. Ça va permettre vraiment d'optimiser la planche pour cette direction. Alors que un shape symétrique va être, comme son nom l'indique, symétrique. Donc on va avoir le nose et le tail de la planche, le nez et la queue de la planche, les deux spatules en fait qui seront identiques et qui permettra donc d'être plutôt centré sur la planche et de pouvoir rider dans les deux sens très facilement, donc rider switch aussi bien que dans le sens habituel. Et donc le shape directionnel, forcément, ça se retrouve plutôt sur des planches freeride, alors que le shape symétrique, qu'on appelle aussi twin shape, c'est plutôt sur des planches freestyle, puisque forcément, quand on fait du freeride, on ride plutôt avec son pied avant dans le sens habituel. Alors qu'en freestyle, pour certaines figures, on va avoir tendance à rider dans les deux sens régulièrement. Le setback, lui, il correspond en fait au recul des inserts destinés aux fixations. Donc, quand on parle de recul des inserts, typiquement, ce que ça veut dire, c'est que nos fixations, elles vont être reculées sur la planche. C'est-à-dire qu'on va avoir un nez qui est plus long que la queue de la planche. Donc plus cette valeur elle est importante, plus les fixations sont reculées. Et bah, il faut noter que ces inserts ils sont jamais déportés vers l'avant de la planche parce que ça n'a vraiment aucun effet positif. Le recul des inserts, ça permet d'avoir plus d'appui sur l'arrière de la board et de la faire déjauger plus facilement dans la poudreuse. Ça veut dire, alors, on a vraiment un gros recul sur les planches de freeride, surtout orientées pour la poudreuse, parce que ça permet que plutôt que de mettre beaucoup de pression sur le pied arrière constamment et au bout de quelques runs de ne plus avoir de jambes arrière, ça permet de rider dans une position beaucoup plus naturelle, tout en ayant le nez qui déjauge bien, qui sort de la poudre. Et c'est donc du coup beaucoup plus reposant et beaucoup plus facile à rider. Alors le désavantage qu'on a par rapport à un recul important, c'est que bah, vu qu'on a plus de poids sur l'arrière, c'est un peu plus difficile de faire tourner la board. Et donc c'est pour ça que voilà, ce recul est surtout sur les planches de freeride et les planches de poudreuse. Alors que sur les planches de freestyle, on a des fixations qui sont bien centrées pour justement pouvoir rider dans les deux sens. Donc un shape directionnel, il est quasiment toujours associé à un setback positif, puisque quand on a un shape directionnel, a priori c'est qu'on est sur une planche plutôt freeride, alors que sur un twin shape, on a en général un setback égal à 0, donc les fixations qui sont centrées sur la planche. Donc ensuite, il reste la longueur et la largeur, qui permettent, comme je vous le disais, d'adapter la planche à votre morphologie. Alors la longueur de la planche, en fait, elle est déterminée par deux facteurs principaux, qui sont d'une part votre poids. Plus on est lourd, plus on va avoir une planche qui est longue. Et votre programme, ainsi accessoirement que votre niveau. Donc une planche de freestyle, elle est plus courte pour privilégier la manœuvrabilité. Alors qu'une planche de freeride, elle est plus longue pour offrir plus de support. Une planche dédiée à la poudreuse, elle est encore plus longue pour avoir plus de flottaison justement dans la poudreuse et pas s'enfoncer dedans en fait. Lorsqu'on débute, on choisit en général une planche un peu plus petite qui va tourner vers les longueurs d'une planche de freestyle pour avoir une meilleure manœuvrabilité. Donc votre taille peut légèrement influencer sur cette longueur également. Mais le poids reste quand même le facteur déterminant. Après, si vous êtes grand et mince, par rapport à votre poids, on aura peut-être une planche un petit peu plus grande. Mais le poids est vraiment le premier facteur. Ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'une board, plus elle va être longue, plus elle va être rigide. Donc elle va offrir plus de support, une meilleure tenue de car, mais elle va être plus difficile à manœuvrer et plus physique. Donc certains fabricants ils publient des recommandations basées sur le poids du pratiquant pour le choix de la taille d'une board. Et ça c'est vraiment le meilleur moyen d'être sûr de choisir la bonne board, de rider avec la planche en fait, qui présente les caractéristiques mises en avant par le fabricant. Quand vous avez ces données là, après vous pouvez un petit peu adapter par rapport à vos préférences personnelles, mais c'est vraiment le meilleur moyen de choisir la bonne board. Alors, toutes les marques proposent pas ce type de tableau. Donc, moi, je vous ai mis sur le blog, en fait, sur l'article, un tableau avec des tailles, voilà, selon votre poids, selon votre taille, qui permettent de juger à peu près la longueur de board dont vous avez besoin. Et donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous rabattre, adapté après, comme je le disais aussi, avec vos préférences personnelles. Et qui va vous permettre de déterminer la longueur de planche qui est la mieux pour vous. Donc les marques proposent leurs boards en plusieurs tailles, en gros de 145 à 170 cm. Donc vous allez, c'est pas par incrément de 1 cm, donc vous allez pas toujours tomber sur la longueur parfaite pour vous. Et donc il faudra voir sur quel incrément vous rabattez. En général, c'est des incréments de autour de 4 cm. Et voilà, encore une fois, c'est adapté selon votre programme, votre niveau de pratique et votre taille. Enfin, il reste la largeur de la board. Alors, si vous avez déjà vu des longueurs affichées, vous remarquerez que parfois, pour certaines longueurs, on a un W qui suit la longueur. Par exemple, vous pouvez avoir une board qui est une 159W. Alors le W, ça veut dire wide, donc large, et ces tailles-là correspondent à donc des planches qui sont plus larges. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir? Ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'une planche, sa largeur doit suivre la taille de votre boot, donc de votre pied. Parce que si une planche est trop large, elle sera pataude, vous aurez du mal à la faire passer d'une carre à l'autre. Et à l'inverse, si une planche est trop étroite, elle fera dépasser de manière trop importante votre pied de la planche. Alors, au talon ou aux orteils, voire aux deux. Et ça, c'est un problème majeur parce que quand vous allez incliner la planche pour carver ou la faire pivoter, en fait, votre boot va venir en contact avec la neige et faire perdre appui à la planche sur sa carre. Et du coup, vu que vous aurez plus d'appui sur la carre, vous allez chuter. Alors, c'est un phénomène qui est exacerbé chez les carveurs extrêmes qui prennent énormément d'angles. C'est pour ça que si vous avez déjà vu des planches alpines et des riders rider ce type de planche, ils ont des angles extrêmement importants. Les planches sont très 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 étroites. Les angles sont extrêmement importants. Les fixes sont surélevées. Et du coup, les chaussures dépassent pas ou quasiment pas de la borne, ce qui leur permet de prendre énormément d'angles. Donc, si vous chaussez du 44 ou plus, il y a de bonnes chances pour que vous ayez à utiliser une taille wide. Si vous avez des grands pieds pour votre taille, que vous êtes très mince, très grand et donc léger pour votre taille, ça peut poser problème parce que du coup, ces tailles larges, logiquement, sont proposées sur les planches les plus longues. Et donc, vous pouvez avoir un petit peu de mal à trouver une planche qui vous correspond. Après, il y a certaines marques comme Nitro qui proposent encore plus d'options et qui proposent donc une largeur mid-wide, donc qui est située entre la largeur normale et la largeur wide. Donc, si c'est votre première planche que vous êtes entre deux tailles, que vous ne savez pas trop quoi choisir, la meilleure solution c'est d'aller en magasin pour demander conseil, voir avec un vendeur s'il y a besoin d'une version wide ou pas, selon votre pointure et la taille de votre boot. Alors, la boot peut entrer en jeu également parce que certaines boots sont conçues pour raccourcir au maximum leur empreinte au sol, donc leur longueur, pour éviter justement ce problème de toe drag. Et donc, pour une même taille, deux boots peuvent avoir une longueur différente. Après, voilà, je vais pas m'étendre plus que ça dessus, mais c'est pareil, selon vos angles de fixation, vous allez pouvoir prendre une planche un peu plus ou un peu moins large. Enfin, les données fabricants précisent souvent une largeur au patin et une largeur au niveau de la taille, la waist width. Et avec ces deux largeurs, en fait, vous allez pouvoir calculer plus ou moins la largeur de la planche sous vos pieds. Donc, si vous possédez déjà une borne, ça peut connaître ces largeurs peut vous donner une bonne indication en les comparant à une nouvelle borne que vous voulez acheter pour savoir s'il vous faut une version wide ou pas, si la planche va être assez large pour vous. Donc, on arrive sur la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, choisir une planche de snow, c'est à la fois facile et compliqué. Moi, je trouve que c'est très intéressant de justement creuser un peu tous les points techniques qui font qu'une planche a tel ou tel caractère. Ça n'empêche pas de se fier à côté aux avis de vendeurs en magasin ou de la presse spécialisée, qui sont souvent plus concentrés sur la façon réellement dont la planche ride. Mais son shape, les types de profils, je trouve ça très intéressant. Et c'est aussi très intéressant de suivre les évolutions au fil du temps de ce que proposent les marques. C'est pour moi un point passionnant aussi du sport. Et donc je vous encourage fortement à le faire et à vous tenir informé. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur glissalpine.fr et donc à visiter par exemple l'article qui correspond à ce podcast. Et si vous avez des questions ou des remarques, allez laisser en commentaire. Sur ce, bon ride et à la prochaine.